Bonjour, c'est Yannick Noah sur Europe 1.
Yannick Noah, entre vous et moi, le podcast événement.
Moi, ce qui me plaît dans Et ma victoire à Roland ou quand je fais des concerts, c'est de pouvoir transmettre quelque chose à l'autre. T'imagines, c'est un luxe.
40 ans après sa victoire historique à Roland-Garros, Yannick Noah se raconte en exclusivité à Jacques Vendroux pour Europe 1.
Moi, j'ai essayé de survivre dans ces nombreux tourbillons de ma vie. Le fait d'avoir réussi dans le tennis m'a renforcé dans l'idée qu'il fallait que je suive mon instinct.
Retrouvez ses confidences inédites, sa nouvelle vie, sa musique, ses racines africaines, ses aventures.
J'ai rêvé que j'avais perdu le match. Et là, j'entends toc, 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 c'est papa qui frappe à la porte. Yann, tu es prêt? Tu as bien dormi? Et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que pour moi, je suis le lundi. J'ai paumé. Je connais le feeling quand t'as paumé. Et là, je m'aperçois que putain, j'ai rêvé.
Oui, c'est recentre. Il monte au filet.
Fin, il a gagné.
Il a gagné. En quel moment,
Yannick Noah, entre vous et moi, le podcast.
Je vous retrouve sur le podcast événement Europe 1.
Disponible sur le site, l'appli Europe 1 et toutes les plateformes d'écoute.
Vous avez intérêt à écouter ça, c'est de la magie.
Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Nous, les historiens, on travaille avec les morts et j'aime même à croire qu'on les rend immortels. Mais on ne donne jamais la mort. Et pourtant aujourd'hui, la France et bien des pays européens sont agités par un débat autour de l'euthanasie. Elle est déjà légale en Belgique, en Espagne, au Luxembourg. Et aujourd'hui, les Pays-Bas s'interrogent sur la possibilité d'ouvrir l'euthanasie aux enfants de moins de 12 ans. La Convention citoyenne en France, qui a été interrogée à ce sujet, est favorable à la légalisation autour de l'euthanasie. Mais le débat ne s'arrête pas là, parce qu'il est traversé par des questions philosophiques, morales et aussi religieuses. Et oui, nous sommes une société judéo-chrétienne. Mais si on remontait un petit peu plus loin, si on allait avant les religions monothéistes et qu'on se rendait dans l'Antiquité gréco-romaine, qu'est-ce que pensent les Romains et les Grecs de l'euthanasie ? Pour en parler avec nous, je reçois Jean-Christophe Courtil, historien des idées dans l'Antiquité, maître de conférences en langue et littérature latine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et membre de l'Institut universitaire de France. Bonjour Jean-Christophe Courtil.
Bonjour Virginie.
Pour démarrer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie étymologiquement le mot euthanasie ?
Oui, euthanasie vient du terme grec euthanasia, qui est composé d'un préverbe « e » qui veut dire « bien »,« bonne », qu'on retrouve par exemple dans « euphorie », le sentiment de bien-être, et du terme « thanatos » qui signifie la mort. Donc étymologiquement, l'euthanasie, c'est le fait de bien mourir. Mais bien entendu, bien mourir ne veut pas dire la même chose à toutes les époques.
Alors justement, pour les Grecs et les Romains, comment perçoivent-ils l'idée de la mort ?
Alors, pour les Grecs et les Romains, la mort est un sujet qui est beaucoup plus présent que de nos jours. En vérité, aujourd'hui, on voit assez peu de gens mourir de nos yeux. La mort est cantonnée souvent aux hôpitaux, aux institutions pour les personnes âgées. Dans l'Antiquité, on voit beaucoup de gens mourir, soit les hommes à la guerre, les femmes en couche. Il y a beaucoup de mortalité infantile. Il y a des épidémies avec des centaines de milliers de morts et bien sûr des mises à mort en public. On pense au spectacle de gladiateurs. Donc la mort est un sujet central et on voit cela très bien dans la réflexion des philosophes puisque toutes les philosophies finalement ont pour objet le fait de s'entraîner à bien mourir et à ne pas craindre la mort.
Alors donc, c'est quoi cette bonne mort ?
La belle mort, alors bien sûr, il y a eu une évolution. La belle mort, d'abord, ça a été la mort utile à la société. Donc, dans un premier temps, ça a été la mort du soldat à la guerre, qui meurt courageusement, ou la mort du philosophe qui se suicide courageusement en montrant qu'il ne faut pas avoir peur de mourir. Ensuite, avec l'apparition des religions du livre, ça a été mourir par rapport à Dieu, une belle mort par rapport à Dieu. Souvent, avec une agonie, avec des souffrances, pour montrer que l'on souffre en obéissance à Dieu. L'agonie est très importante. Hein, dans la Bible, on a « Seigneur, protège-moi de la mort subite », parce que si je meurs paisiblement dans mon sommeil, je n'aurai pas droit à l'extrême onction. Il faut qu'il y ait une agonie durant laquelle le prêtre va pouvoir venir me donner les derniers sacrements. Donc on a peur de cette mort rapide, sans souffrance et subite. Hein. Donc on a besoin de cette agonie. Et dans un dernier temps, qui est assez moderne à partir du 19e siècle, la belle mort, c'est une mort qui est belle pour soi, pour l'individu.
C'est plus romantique.
Oui, et c'est surtout plus subjectif, parce que finalement, la belle mort, elle va être différente pour chacun. Pour certains, ça va être une mort sans souffrance. Pour d'autres, ça va être une mort dans la dignité, ou en étant toujours indépendant, ou en ayant toujours ses capacités cognitives. Donc en fait, on est passé d'une mort non médicalisée à une mort médicalisée qui va être prise en charge et qui va avoir pour but de correspondre à ce que l'individu souhaite.
Alors justement, dans l'Antiquité, vous avez beaucoup travaillé sur l'œuvre de Sénèque et le corps en souffrance dans l'œuvre des stoïciens. Qu'est-ce qu'on fait des malades dans l'Antiquité, ceux dont on sait qu'ils n'ont aucune chance de guérir ?
Oui, alors c'est une question qui a toujours été très importante dans les sociétés et qui était traitée très différemment lorsqu'il n'y avait pas d'hôpitaux et lorsqu'il n'y avait pas de structure pour accueillir ces malades. Donc ce que l'on faisait généralement, c'est que le médecin devait établir un pronostic sur la santé du malade. Ça a été un des grands changements de la médecine d'Hippocrate au 4e siècle avant notre ère. Et à partir du moment où on a été capable d'établir des pronostics, soit le malade était curable, soit il était incurable. Et dans l'Antiquité, lorsque le malade est incurable, le médecin l'abandonne aux soins des siens. C'est-à-dire que, il faut comprendre, il y a une réflexion pragmatique derrière. Lorsque le malade est condamné, si le médecin continue à s'en occuper, les proches peuvent considérer que le malade est mort à cause du médecin. Ah. Alors que si le médecin se décharge de la responsabilité du cas incurable, eh bien ce n'est plus qu'aux proches à s'en occuper. Alors, ils s'en occupent et ils vont pas, bien sûr, lui donner des médicaments puisqu'il n'y en a pas, ou de la sédation puisque ce n'est pas possible, mais ils vont l'entourer d'amour, de tendresse. On va dire que c'est un accompagnement émotionnel et spirituel.
Il n'y a pas de recette antique pour alléger les douleurs, des choses à base de pavot, d'opiacés?
Alors, il y en a bien, mais il faut avoir conscience que lorsqu'on parle de fin de vie, il s'agit de souffrances qui sont assez intenses. On parle de déshydratation, on parle d'encombrement des voies respiratoires. Donc, l'agonie, il faut en avoir conscience, dans le passé, était extrêmement douloureuse. Il y avait, bien entendu, des substances antalgiques, des opiacés. On avait déjà un certain nombre de substances dans la pharmacopée antique, mais rien de comparable à la morphine ou les composés de la morphine qu'on utilise aujourd'hui. Il n'y avait pas d'analgésie, c'est-à-dire de sédation profonde et durable des individus.
Et il y a des lieux un peu particuliers, ce sont les temples d'Esculape où l'on peut aller quand on est malade, on peut y passer la nuit, ça s'appelle l'incubation d'ailleurs, mais on peut aussi y abandonner des esclaves vieux et malades. À quoi ressemblent ces lieux ? Quelles sont leurs vocations dans l'espace social ?
Oui, ce sont en quelque sorte les ancêtres de nos hôpitaux. Ce sont des temples, et c'est important parce que, en réalité, dans ces temples, il n'y a pas vraiment de médecins, mais plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui des prêtres, qui ne vont pas donner des soins médicaux, mais plutôt des soins spirituels ou des rites, hein, qui ont pour but de retrouver la santé lorsqu'on considère que la maladie provient de Dieu. Et ces lieux étaient souvent, en réalité, des lieux où on allait mourir. On allait en attendant que la mort arrive. On espérait être guéri. Parfois, il y avait des guérisons miraculeuses. On a ça chez Suétone, qui nous explique que l'empereur Claude, qui est connu pour avoir mis en place un certain nombre de mesures en faveur des esclaves, avait promulgué une loi selon laquelle, lorsque les esclaves guérissaient dans les temples d'Esculape, alors que les maîtres les y avaient abandonnés, eh bien, ils récupéraient automatiquement leur liberté, puisque c'était le signe d'une élection divine.
Et pour les Romains, à quoi ressemble l'au-delà ? Est-ce qu'on meurt pour aller quelque part ou est-ce que tout s'arrête ?
Oui, il y a une géographie des enfers qui date de l'Antiquité grecque et romaine, qui a été reprise ensuite par les Romains. Donc pour les anciens, lorsqu'on meurt, on va sous terre, on va dans le royaume des enfers, selon une logique tout à fait pragmatique.
Mais ce n'est pas l'enfer chrétien avec des femmes partout.
Non, ce n'est pas tout le monde va dans les enfers. À partir du moment où on meurt, on va dans les enfers, si du moins les proches ont pensé à nous mettre une pièce dans la bouche, puisqu'il faut cette fameuse pièce pour passer le Styx, pour donner à Charon, qui est le le batelier des enfers. Puis ensuite, on passe le chien Cerbère, le chien à trois têtes, et on arrive dans une sorte de prairie dans laquelle il y a trois juges, hein, les fils de Zeus, Minos, Éaque et Radamante. Et ces trois juges sont là pour évaluer la qualité de l'âme des vivants. Donc on ne va pas tous au même endroit dans les enfers. Ceux qui ont eu une vie honnête vont dans les Champs-Élysées, qui est une plaine magnifique, avec de la lumière, avec de la joie, fertile, où on y mange bien, etc. Ceux qui ont une vie mauvaise vont dans le Tartare, qui est l'endroit le plus profond des enfers, qui est très sombre, qui est terrible, et dans lequel on va subir une série de châtiments proportionnels aux fautes qu'on a commises durant son vivant. Et il y a un troisième lieu qu'on appelle les champs d'asphodèle, qui sont, on va dire, l'ancêtre du purgatoire. C'est un peu entre les deux, pour ceux qui ont une vie ni trop bonne ni trop mauvaise. Donc là, c'est une logique gauche-droite, c'est-à-dire on va à gauche vers le Tartare, on va à droite vers les Champs-Élysées.
Parce que la droite est le côté positif.
C'est ça, depuis toujours, hein, parce que la gauche, c'est la partie sinistre, exactement. Et cette symbolique gauche-droite va ensuite être remplacée par une symbolique haut-bas, hein, puisque ensuite on va considérer qu'on descend en enfer et qu'on monte vers le paradis.
Et pour les Romains, c'est quoi les mânes? C'est une sorte de fantôme de la personne défunte?
Oui, alors les mânes, il en est très souvent question. Quand on va dans des musées aujourd'hui, on voit souvent sur les stèles funéraires DM, hein, ça veut dire Dis Manibus, au dieu mâne. C'est effectivement, ce sont les âmes bonnes des anciens, par opposition aux âmes mauvaises, que sont les larves. Et en fait, cette distinction, elle vient du fait que certains ont été bien enterrés, suivant les rites funéraires adaptés, ça ce sont les mânes, et ceux qui n'ont pas connu de sépulture, donc dont le cadavre a été perdu par exemple en mer ou sur le champ de bataille, eux n'ont pas pu passer, comme je le disais tout à l'heure, le Styx et aller dans le royaume des enfers, donc leur âme erre éternellement à la recherche d'un asile, donc ce sont des âmes qui sont en colère. Et donc, ils viennent hanter les vivants. C'est pour cela qu'on a mis en place dans l'Antiquité un certain nombre de rituels pour essayer de calmer ces âmes. Donc, les mânes, ce sont les bonnes âmes. Ce sont les âmes vers lesquelles on peut se tourner pour faire appel à la bienveillance de ses ancêtres, par opposition aux larves qui, elles, vont venir nous tourmenter.
Et donc, tout dépend de la sépulture, comme vous l'avez dit. Alors, pour nous, on associe l'euthanasie au suicide assisté, ou au suicide que l'on pratique soi-même avec l'aide d'un certain personnel médical. Comment était perçu le suicide pour les Romains?
Alors, dans l'Antiquité, il n'y a pas vraiment de tabou et d'interdiction absolue du suicide, comme on peut l'avoir au Moyen-Âge, par exemple, où la pensée chrétienne est majoritaire. Au Moyen-Âge, il faut se souvenir quand même que lorsqu'on se suicide, on a droit souvent à des procès après sa mort, hein, ce qu'on a appelé les procès à cadavre. Donc, notre cadavre est déchiqueté, est traîné dans les rues, est pendu en public. C'est pour dire à quel point le suicide n'est pas soumis simplement à une interdiction, mais à une véritable mise au ban de la société. Dans l'Antiquité, on n'a absolument pas ça. Bien sûr qu'il y a des philosophies qui étaient plutôt contre le suicide. Je dis plutôt parce qu'aucune n'est vraiment entièrement contre le suicide. Le suicide, c'est quelque chose qui est extrêmement pratiqué dans l'Antiquité. Donc on a des philosophies comme le platonisme, par exemple, qui sont plutôt contre, même s'il faudrait nuancer ce propos, et des philosophies par contre qui sont... Alors, pour le platonisme, d'ailleurs le platonisme va énormément influencer la pensée chrétienne sur le suicide, pour le platonisme, le corps et la vie appartiennent à Dieu. Donc c'est Dieu qui doit décider du moment où l'on meurt. Alors, ça a souvent été mal compris. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se suicider. D'ailleurs, Socrate lui-même se suicide.
Exactement.
Socrate, qui est le représentant le plus célèbre du platonisme. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se suicider. Ça veut dire que on a le droit de se suicider uniquement lorsque Dieu le veut.
Ça veut dire que les dieux envoient des signes.
Oui, ça veut dire que les dieux envoient des signes. Alors, ce ne sont pas des signes comme on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire on ne va pas avoir une vision ou un présage. Hein. On croit beaucoup à ça dans l'Antiquité, qu'il y a des présages qui annoncent la mort d'individus, souvent la foudre qui tombe quelque part. Alors, ce ne sont pas ces signes-là, ce sont plutôt des signes qui sont analysés par la personne qui doit se suicider comme un signe objectif de fin de vie. Donc, par exemple, je prends le cas de Socrate. Si Socrate se suicide, c'est parce qu'il est condamné à mort par sa cité, qu'il sait que les lois de la cité sont des lois naturelles, que la démocratie est un régime naturel et donc voulu par Dieu. Donc, si les lois m'imposent de me suicider, je dois me suicider. C'est voilà le signe qui a été envoyé par Dieu pour que je me suicide.
Et prenons le suicide de Sénèque, donc grand philosophe stoïcien romain, qui a travaillé au plus près de Néron et qui est littéralement condamné à mort par lui. Donc, il n'a pas d'autre choix que de se suicider s'il veut garder son honneur. Alors, comment se passe ce suicide ?
Oui, alors il y a bien sûr une question d'honneur et il y a aussi la question du suicide du philosophe. C'est que la mort du philosophe, elle est extrêmement importante dans l'Antiquité. C'est pour ça qu'on a autant de récits de mort de philosophes. Parce que le philosophe, toute sa vie, a eu des enseignements qu'il a transmis à ses disciples. Mais au moment de sa mort, c'est le moment ultime, le moment le plus évident pour montrer à tous qu'il met en pratique sa philosophie. Donc pour Sénèque, qui est condamné à mort, il se suicide, mais en fait il se suicide parce qu'il est un aristocrate et que les aristocrates romains n'admettent pas en fait de se faire mettre à mort par autrui. Hein. Donc il se donne généralement eux-mêmes la mort, un peu comme les Japonais avec le seppuku. Hein. Donc Sénèque, lui, se suicide justement parce qu'il a reçu un signe de mort inéluctable, il n'a pas le choix. Donc le seul choix qu'il a, c'est de se faire tuer par quelqu'un ou de se donner lui-même la mort. Et s'il préfère se donner lui-même la mort, c'est pour montrer jusqu'à la fin qu'il ne craint pas la mort, qu'il maîtrise son corps, qu'il maîtrise sa douleur. Et donc c'est un message envoyé au reste de l'humanité pour montrer que la douleur et la mort ne sont pas à craindre et qu'il est possible d'être courageux jusqu'à la fin.
D'ailleurs, sa jeune épouse veut se suicider avec lui pour l'accompagner dans la mort, mais Néron donne l'ordre de la sauver. Pourquoi ?
Oui, alors, il y a plusieurs raisons. Là, il faut voir beaucoup de symboles dans cet épisode. Hein. Toutes les morts de philosophes sont très symboliques. Il faut bien voir qu'entre le suicide de Sénèque et le suicide de son épouse Pauline, ce sont deux choses qui sont totalement opposées. Le suicide de Sénèque, c'est un suicide de philosophe. Donc, il va montrer à tous que lorsque la mort est inéluctable, il faut être courageux. Alors que le suicide de son épouse, c'est un suicide impulsif. C'est-à-dire que c'est un suicide qui repose sur un élan impulsif et non rationnel, qui ne repose pas sur une longue réflexion philosophique. Et ce suicide-là, justement, il est condamné par toutes les philosophies. Toutes les philosophies s'opposent au suicide impulsif, c'est-à-dire le suicide qui repose sur des émotions, autrement dit.
Et prenons le serment d'Hippocrate qui a été conçu donc au IVe siècle avant Jésus-Christ. On peut lire encore aujourd'hui cette phrase « Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Ça veut dire que le médecin ne donne jamais une potion, un poison pour qu'on puisse se suicider.
Alors cette phrase est très intéressante parce qu'elle est souvent utilisée pour justement illustrer les propos sur la fin de vie, mais cette phrase n'est pas dans le serment d'Hippocrate initial, c'est-à-dire que le serment d'Hippocrate, il a énormément évolué depuis l'Antiquité, et en particulier il a été remis à jour en 1996 par le professeur Bernard Herny, qui a ajouté cette phrase au serment d'Hippocrate du fait que dans les années 90, il y avait un débat assez intense autour de l'acharnement thérapeutique. Donc cette phrase, elle a été ajoutée au serment d'Hippocrate pour préciser que la médecine moderne s'oppose à l'acharnement thérapeutique, privilégie les soins palliatifs, hein, d'où l'utilisation de l'expression « alléger les souffrances » et pas « mettre fin aux souffrances », et qu'elle s'oppose bien sûr à l'euthanasie aussi bien passive qu'active. Alors que dans le serment d'Hippocrate initial, on n'a absolument pas cette phrase, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique dans l'Antiquité, ce n'est pas possible, il n'y a pas les moyens médicaux et technologiques pour le faire. Par contre, on a la phrase « je ne remettrai à personne de poison si on me le demande ou n'en prendrai l'initiative ». Et cette phrase-là, elle signifie que dans l'Antiquité, on interdit l'euthanasie active, c'est-à-dire le fait que le médecin donne lui-même la mort au patient, ça s'est assimilé à un homicide. Par contre, dans l'Antiquité, on admet tout à fait l'euthanasie passive, c'est-à-dire le fait de laisser le patient, lorsqu'il est en fin de vie, de le laisser mourir de sa belle mort ou de sa mauvaise mort, parce qu'en réalité, l'agonie dans l'Antiquité ne devait pas être très simple à gérer.
Merci Jean-Christophe Courtil, vous nous avez donné plein d'outils pour mieux comprendre le débat autour de l'euthanasie d'aujourd'hui avec ce bel éclairage historique. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Apprendre le latin, manuel de grammaire et de littérature, est paru aux éditions Ellipse. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Et moi, je vous dis à très bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.